France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Un nouveau rassemblement est en cours en ce moment à Hong Kong. Des centaines de manifestants se sont donné rendez-vous ce matin devant le Parlement. Ils protestent contre les autorités locales pro-Pékin et ils dénoncent toujours le projet de loi qui autorise les extraditions vers la Chine continentale. Un projet de loi suspendu mais pas encore retiré. La foule réclame également la démission de la chef de l'exécutif. Hier, Carrie Lam a déclaré qu'elle ne céderait pas malgré les manifestations historiques des dernières semaines. L'Iran est en colère et le fait savoir à l'ONU. Dans une lettre envoyée au Conseil de sécurité, Téhéran dénonce l'entrée dans son espace aérien d'un drone américain. Une action américaine provocatrice et très dangereuse contre son intégrité territoriale, dit Téhéran. L'appareil a été abattu hier alors que, toujours selon l'Iran, il venait de mener une opération d'espionnage dans le détroit d'Ormuz. Ce scénario est démenti par Washington. Donald Trump parle d'une très grave erreur de la part de l'Iran. Il a même été très proche hier de valider des frappes contre des positions iraniennes. C'est ce que rapporte ce matin le New York Times. Hier soir, le président français Emmanuel Macron appelait au calme. Emmanuel Macron, qui s'exprimait depuis Bruxelles en marge d'un Conseil européen. Les 28 pays membres n'ont pas réussi à trouver de consensus sur le ou la futur chef de la Commission européenne. Ils se retrouveront donc le week-end prochain. Les trois candidats, Manfred Weber, Frans Timmermans et Margaret Vestager sont écartés. Et puis, il n'y a pas eu d'accord non plus sur le climat hier à Bruxelles. La Pologne, la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie se sont opposés à la neutralité carbone d'ici 2050 dans l'Union européenne. Notez enfin qu'on connaît le nom de l'adversaire de Boris Johnson en Grande-Bretagne pour prendre la tête du parti conservateur et donc celle du gouvernement à la place de Theresa May. C'est Jeremy Hunt qui avait mené campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union qui affrontera Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères, lui est au contraire un fervent partisan du Brexit. Le vote des militants conservateurs va débuter. Les résultats seront connus la semaine du 22 juillet.
France Culture présente Champs-Élysées Film Festival, le rendez-vous incontournable du cinéma indépendant français et américain à Paris. Pendant une semaine, 5 cinémas accueillent avant-première, rétrospective et masterclass, avec notamment Debra Granik, Jeff Goldblum, Kyle MacLachlan, Christopher Walken et David Lowery. Champs-Élysées Film Festival jusqu'au 25 juin à Paris. Un partenariat France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Mon invité ce matin, c'est le plus fou, le plus rock'n'roll, le plus déjanté et enfin le plus talentueux des dessinateurs libanais, Mazen Kerbaj. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Avant de partir s'installer à Berlin, Mazen Kerbaj a raconté dans ses bandes dessinées sa jeunesse au pays du cèdre et plus particulièrement à Beyrouth. Beyrouth, capitale d'un petit pays tout à la fois ouvert et plein d'interdits, où il fait bon vivre quand il ne pleut pas des bombes. Mazen Kerbaj se moque de tout le monde dans ses bandes dessinées, de toutes les factions religieuses, les sunnites comme les chiites, les druzes comme les maronites. Il se moque aussi des bourgeoises de Beyrouth, de ceux qui parlent au nom des Syriens et des Palestiniens, et aussi de l'Occident qui ne comprend rien à ce grand souk qui rythme tous les jours et toutes les saisons de cette petite mosaïque qu'est le Liban. Politique, tel est le titre de cette bande dessinée que je vous recommande vivement. Son auteur Mazen Kerbaj, de passage à Paris, nous en parle aujourd'hui.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Mazen Kerbaj. Politique, donc, c'est... Cet album qui réunit plusieurs de vos petites histoires, éditées par Actes Sud et Arte, des histoires qui ont eu sans doute une vie auparavant. Est-ce que c'était pour la presse ?
Oui, c'était surtout pour la presse, beaucoup pour la presse francophone au Liban, pas mal pour la presse arabophone qui ont été traduites, donc du coup, par mes soins. Et quelques trucs pour Internet ou pour la presse étrangère. Mais c'est effectivement toutes des pages qui sont parues ici ou là dans les 10 dernières années ou dans les 13 dernières années. D'une manière ou d'une autre, tout mon travail est quelque part autobiographique et je pourrais même dire que c'est le monde vu à partir de mon cerveau, quasiment, qui lui-même était à Beyrouth, donc à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Beyrouth, il y a beaucoup de choses qui se passent autour, que ce soit en Syrie ou en Israël, et puis d'autres qui se passent un peu dans le monde. Une chose donc je n'ai pas dite, c'est que ça a beau être 13 ans de dessins et de pages éparses, pour le livre, j'ai redessiné tout quasiment, et j'ai repensé le tout comme un livre. Je ne voulais pas que ce soit vraiment un recueil de dessins de presse, mais plutôt un livre qui a une sorte de rythme propre et de narration quasiment.
Toutes ces histoires parlent de la situation politique au Proche-Orient ces 13 dernières années, c'est-à-dire il y a eu des guerres, et tout ça c'est raconté avec un humour corrosif. Vous êtes très souvent l'acteur principal de ces histoires, il y en a d'autres personnages, on va en parler, Mazen Karbaj, mais l'idée même de cet humour noir, très cynique, est-ce que ça fait partie de l'absurde d'une manière universelle que vous appliquez à la politique de votre pays, ou c'est quelque chose qui a à voir avec la culture de l'humour au Liban?
Non, je dois dire que c'est assez mal perçu au Liban aussi, enfin mal perçu par certaines personnes qui lisent mal ce genre de trucs ou qui prennent mal ce genre d'humour. Je dirais que mes influences principales sont plutôt à chercher du côté de la France, à savoir le vieux Harakiri, des gens comme Rezer ont influencé beaucoup mon travail, d'autres choses, de l'autodérision comme Gottlieb, Gossens, ce genre de choses. J'ai grandi en lisant des bandes dessinées franco-belges et je puise beaucoup là-dedans, dans la manière de faire et dans l'humour noir, corrosif, au vitriol, etc. Je pense que naturellement aussi, j'ai cette tendance un peu noire, donc un peu... on ne sait pas si on doit rire ou pleurer, en fait, ça reste sur un fil. On ne sait pas où ça va basculer, et parfois c'est pas drôle du tout, c'est vraiment triste, quoi. Parfois, j'arrive pas à franchir le pas et à faire ça, à rendre ça drôle, alors je le laisse triste. Ce qui est plutôt rare, d'ailleurs, pour des dessins d'humour... Mais ouais, je pense que c'est aussi une sorte de position où on essaye d'en rire plutôt que d'en pleurer. Hein. C'est surtout ça, quoi. Il y a très peu de choses réjouissantes dans la région, donc il faut essayer de
Le sens de l'humour, si.
Le sens de l'humour, voilà ce qui nous reste, quoi. Ça coûte pas cher, et puis ouais, c'est une manière vraiment de distancier ça et d'essayer d'en rire, quoi. Voilà. Il faut dire aux gens qui ne connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas, même les gens qui croient connaître, de toute manière ce qu'on connaît de Beyrouth ou de la région, c'est toujours à travers le prisme des médias, et puis c'est toujours réducteur et toujours plus ou moins faux, quoi. Mais bon, pour nous autres Libanais, je dirais qu'on vit jamais en état de paix, quoi. Il y a des longs moments où il n'y a pas la guerre, mais c'est toujours une sorte d'entre-deux-guerres, on est toujours dans l'attente de ce qui va se passer. À la limite, je vais dire un truc un peu gros, quand il y a la guerre, on est plus ou moins rassuré, quoi. On sait dans quelle merde on patauge, quoi. Et quand il n'y a pas la guerre, on est dans l'expectative, quoi. On ne sait pas d'où ça va venir, d'où va commencer la prochaine et où ça va partir. Quand il y a la guerre, c'est un peu comme quand il y a des bombes. C'est affreux, on a peur, mais en quelque sorte, on sait ce qui se passe. Voilà, il y a des bombes qui tombent sur cette région-là, on sait comment réagir avec ça. Alors que quand il y a un silence pendant deux jours, on a peur, quoi. On ne sait pas où la prochaine et où la première va tomber, et elle peut nous tomber sur la gueule. C'est des sortes de réflexes qu'on développe. Il y a une autre chose que je dis souvent, c'est quand on entend une bombe, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Si on réussit à l'entendre, c'est qu'on ne se l'est pas prise dans la gueule. Donc il y a toujours une sorte de distanciation. Et de manière j'aime bien analyser ce genre de truc, quoi, parce qu'on a vécu toujours dedans. En même temps, c'est moins tragique, ça a l'air, quoi. On est un peu habitué à vivre dans cette merde. Ce qui fait qu'on peut en rire. J'imagine que pour un Français ou un Européen, c'est difficile d'imaginer comment pourrait-on rire de ce genre de truc. Mais en même temps, on peut pas. C'est invivable si on n'en rit pas, quoi. Il faut pouvoir mettre une distance et rire de ses malheurs. Et aussi, comme vous le disiez, il y a beaucoup de religions, de confessions, il y a beaucoup d'interdits, de tabous. Et ça, pour moi, c'est aussi une sorte de challenge de comment pouvoir contourner ça. Et je pense que je me suis jamais auto-censuré, c'est-à-dire je trouve des moyens de dire les choses qui font que ça passe à la censure. C'est une sorte de je suis devenu un champion sur comment naviguer juste un millimètre en dessous du radar de la censure et de dire ce que je veux. Donc quelqu'un qui lit le livre, beaucoup d'amis pas libanais, donc occidentaux, mettons, entre parenthèses, entre guillemets, c'est un mot un peu bizarre pour moi, me disent « mais tu as réussi à faire passer ça au Liban ?» Et ils sont un peu étonnés. Et effectivement, il y a beaucoup de choses, ça tape sur la religion, ça tape sur l'alcool, le sexe, les tabous, tout ça. Et je crois qu'on peut, effectivement... Enfin, le Liban est en même temps beaucoup plus libéré que beaucoup d'autres pays arabes, mais il y a une censure assez sévère. Mais on peut passer outre, quoi. Il faut faire des... C'est une gymnastique un peu bizarre, mais j'espère que j'y arrive, quoi. Je dis toujours, je suis avec personne, mais je suis plutôt contre tout le monde. À commencer, je suis surtout contre les miens, entre guillemets. Donc ma communauté, pour moi, c'est l'athéisme total, pur et dur, voire militant, parce que je vis dans un pays où il faut vraiment faire bouger les choses.
Alors vous dites ça, alors je vais renvoyer à une des histoires de politique. Vous êtes athée, mais de quelle origine?
Ben voilà, donc c'est ça au Liban. Donc quand on est athée, les gens veulent savoir, oui, mais tu es un athée d'origine sunnite ou chiite ou chrétienne, etc. Alors moi, du coup, je suis un athée d'origine catholique, mais bon. Mais c'est vrai qu'il faut surtout que je tape sur les miens ou les gens qui pensent comme moi. Donc, et surtout quand je suis dans un journal ou une revue, j'essaye de taper sur exactement les gens qui lisent cette revue et pas leurs adversaires. Donc, pour donner un exemple, si je travaillais à l'Humanité en France, je taperais sur les communistes et pas sur les bourgeois, quoi. Et je crois que c'est très important de faire ça et d'aller presser là où ça fait mal. Sinon, c'est un peu trop facile de juste taper. Oui, voilà, on va se foutre de la gueule des autres. Non, non, j'aime bien me foutre de la gueule de nous autres, quoi.
Par exemple, c'était pour quelle presse, pour quel titre de la presse libanaise que la plupart de ces histoires qu'on peut retrouver dans Politique ont été publiées d'abord, Mazen Kerbaj?
Alors, le plus ont été publiés dans L'Orient littéraire, qui est donc un supplément littéraire d'un journal, d'un quotidien de langue française, qui est L'Orient le Jour. Et c'est lu par une certaine élite francophone, bien sûr, plutôt éduquée, plus ou moins bourgeoise, d'où le fait que je tape beaucoup sur les bourgeois, quoi.
Il y a deux personnages incroyables dans votre univers, Mazen Kerbaj. Ce sont deux Libanaises, deux vieilles Libanaises, deux bourgeoises, et à travers elles, dans des scènes d'un comique vraiment corrosif, hein, c'est-à-dire ça dépasse même l'entendement de l'humour noir dont on a l'habitude, pourtant ici en France, raconte un peu tous les problèmes du Liban, c'est-à-dire les problèmes politiques, les réfugiés syriens qui arrivent, le racisme que vous traitez aussi à travers ces deux personnages.
Oui. C'est alors bien sûr. Donc je tape sur ces gens. J'ai ces deux personnages de bourgeoises ou de bourgeoises refaites, comme c'est beaucoup le cas à Beyrouth. Oui, je pense que je pousse l'humour noir un peu. Je pousse le bouchon un peu trop loin. Je vois toujours jusqu'où je peux le pousser. Souvent on rit puis on se demande est-ce que c'est bien de rire sur ce truc ou non? C'est un peu trop hardcore, quoi.
On va prendre une des histoires de ces deux bourgeoises refaites, comme vous le dites, Mazen Kerbaj. C'est une des bourgeoises qui discute toujours avec sa copine. Et elle lui dit, je me suis rendu compte, grand scandale, je me suis rendu compte que ma bonne philippine n'était pas du tout philippine, mais éthiopienne. Et lorsqu'il lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez la renvoyer? Et l'autre qui lui répond, mais non, mais je vais quand même baisser son salaire. Et je suis sûr que ça renvoie à une réalité social au Liban.
Ça renvoie effectivement au fait qu'une Philippine coûterait plus cher qu'une Éthiopienne. Il y a des barèmes, c'est absurde à ce que je dis, semble être venu de nulle part ou du fond du Moyen-Âge, mais c'est comme ça, quoi. Il y a une autre réalité, c'est qu'on appelle les bonnes de maison, donc les domestiques de maison, j'appelle ça des esclaves modernes, moi, mais on les appelle une Sri Lankaise. Parce que la plus grande partie vient, ou historiquement, venait du Sri Lanka. Et donc, Sri Lankaise devient quasiment une sorte de job, quoi. C'est pas, donc ça mène à des blagues du genre, enfin j'en fais une fois où ta Sri Lankaise, elle est de quelle origine? Donc c'est vraiment, ça peut sembler exagéré, mais c'est quasiment vrai, quoi. C'est vraiment très proche de la réalité, en fait. C'est, ça s'éloigne un tout petit peu de la réalité pour la montrer, mais c'est comme ça, quoi. Donc, cette histoire de Philippine qui est éthiopienne, ça pourrait arriver. Donc c'est comme vous dites, ça reste toujours très proche d'une réalité qui existe. Et le racisme ordinaire au Liban, l'esclavagisme moderne, et aussi c'est pas le propre des bourgeois, hein. Ici, quand on dit on a une domestique à la maison, c'est les aristocrates, voire une très très haute bourgeoisie. Mais à Beyrouth, c'est la classe moyenne, voire même moins que moyenne, quoi, parce que tout le monde peut se payer une personne qui vit à demeure, qui travaille depuis qu'elle se réveille jusqu'à ce qu'elle rentre dormir, qui s'occupe des enfants, qui nettoie, qui fait la bouffe, etc. Et qui touche 200 euros par mois et qui dort dans un truc d'un mètre par deux mètres. Donc c'est une réalité, c'est pas le propre des bourgeois, ni des les bourgeois, les aristocrates en auront deux ou trois. Ils auront une plus grande maison, etc. Ils peuvent se permettre d'avoir plusieurs Philippines ou Sri Lankaises, etc.
Pour les massacres commis par toutes les fractions de guerre dans cette région, et notamment pour les guerres israélo-arabes ou les attaques de l'armée israélienne, vous essayez de passer par l'humour, alors que c'est un sujet, je suppose, très profondément dramatique au quotidien chez les Libanais.
Oui, c'est tragique, quoi. Pour les Libanais, pour les Palestiniens aussi, quoi. Parfois, je me dis qu'on est bien lotis à côté des Palestiniens de Gaza, par exemple. Oui, j'essaie toujours de passer par l'humour. Et pour les massacres, on disait les massacres perpétrés par plusieurs. En fait, c'est surtout perpétré par Israël, hein, il ne faut pas se leurrer non plus. Bon, hélas, il y a maintenant les massacres en Syrie, les massacres d'une guerre civile, quoi, les massacres d'un dictateur sur son peuple, etc. Aidés par des forces extérieures. Mais c'est surtout les massacres d'Israël qui... C'est-à-dire, je sais pas, c'est aussi, ça reste proche de la réalité. C'est-à-dire, Israël commet des massacres et elle se fait dénoncer par la communauté internationale. Et ça s'arrête là, quoi. Autant j'essaie de faire rire avec, autant c'est la seule réponse. C'est-à-dire, les gens sont outrés par ce genre d'humour, mais il faudrait être outré par ce qui déclenche ce genre d'humour à la base, à savoir les massacres eux-mêmes.
Mazel Karbadj, vous êtes né en 1975, c'est-à-dire avec le début de la guerre civile au Liban. Ça vous a marqué ?
Ça m'a marqué, oui, bien sûr. C'était 15 ans de mes premières 15 années étaient en guerre civile, mais ça m'a pas marqué plus que ça, dans le sens où c'était une jeunesse, une enfance, tout ce qu'il y a de plus heureux, hein. À l'époque, quand il y a des bombes, on va pas à l'école. Hein. C'est comme une tempête de neige au Canada, quoi. Je me rappelle prier le petit Jésus pour qu'il y ait un peu de bombes, pas trop, sans tuer personne, mais pour rater l'examen de maths de demain, quoi. C'est des trucs... on est gamin, on se rend pas compte, quoi. Et quand on est né dedans, à un an, on demande ça c'est quoi, c'est une table, ça c'est quoi, c'est un canapé, et ce bruit c'est quoi, c'est une bombe. Et puis on assimile ça vraiment comme une chose très naturelle. Quand on a 7, 8, 9 ans, il ne faut pas avoir peur de toute manière, parce que les copains vont se foutre de ta gueule. Donc c'est vraiment une sorte de jeu. Puis on joue à la guerre, etc. C'est bien plus tard qu'on réalise... donc à 15 ans, on nous a dit la guerre est finie, mais pour la énième fois, donc on n'y a pas cru. Ça a pris 2-3 ans pour que ça enregistre dans nos esprits. C'était l'époque où je devenais... adolescent, jeune adulte, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis c'est beaucoup plus tard où on se dit tiens, je savais démonter une Kalachnikov à 12 ans, quoi. C'est pas normal, en fait. C'est plus tard qu'on, a posteriori, qu'on se pose des questions. Mais en même temps, je considère pas que j'ai eu un traumatisme ou que j'ai vécu une enfance tragique. Maintenant, pour mes parents, ça a dû être une tragédie de tous les jours pendant 15 ans. Et pour tous nos parents, je sais pas comment ils ont réussi à vivre ça et à survivre ça. Mais vraiment, pour nous, pour ma génération, c'est abominable à dire, mais c'était normal, quoi.
C'est une musique de Mazen Karpadze. Il n'est pas seulement auteur de bande dessinée, il sort politique. En ce moment, c'est une coédition Actes Sud et Arte Édition. Musicien, auteur de bande dessinée, peintre.
Oui, je le dis toujours, comme tous les Arabes, j'ai plusieurs métiers. Hein, je dois joindre les bouts.
Avec la musique, vous gagnez de l'argent.
Non, faut pas déconner non plus. Non, la musique, je fais assez expérimentale. Je sais pas, j'ai grandi en voulant être... j'ai jamais voulu être cosmonaute ou pompier. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée depuis que j'ai 4-5 ans, quoi. J'adorais les bandes dessinées. Et
Lesquelles?
Surtout à l'époque, Kid Ordin, Chic Bill, les aventures de Chic Bill.
C'était vos parents qui disaient ça?
Non, mon grand frère et puis des cousins et puis... Je me rappelle que mes parents, chaque fois que j'avais une bonne note à l'école, ils me donnaient 21 livres libanais, c'était le prix d'une bande dessinée. Puis bien sûr, Tintin, Astérix, Lucky Luke, tout ça. Enfin, tout ce qu'un jeune de mon âge aurait lu en France, quoi. C'est un peu vraiment la bande dessinée franco-belge. Je croyais d'ailleurs que tout était français, je savais pas faire la différence. Et la Saint-Nicolas, par exemple, qui est un truc très belge, pour moi, était français, quoi.
Et le dessin, c'est arrivé comment? C'est en lisant ces bandes dessinées quand vous étiez enfant, Mazen Karpadze?
Le dessin, c'est arrivé, je pense, comme pour tous les gamins. Donc, je dessine depuis que je suis très jeune, comme quasiment tous les gamins. Et j'ai jamais arrêté, en fait. Je pense que les enfants, à un moment ou à un autre, vers 7, 8, 9 ans, commencent à s'éloigner du dessin et trouvent que c'est une sorte de jeu d'enfant, quoi. Et ils veulent s'en éloigner. Et puis, je crois que c'est commun à beaucoup de dessinateurs. C'est à ce moment-là qu'ils continuent à dessiner mieux et plus et à ne pas prendre ça comme vraiment seulement un amusement. J'ai toujours dessiné, mais ma mère aussi est peintre et mon grand frère dessinait beaucoup, très bien d'ailleurs, à l'époque. Et je voulais faire comme eux, quoi.
Mazen Karpadze, vous êtes fait connaître dans le monde grâce à Internet et puis surtout grâce à un blog que vous avez tenu en été 2006, c'est-à-dire que pendant une guerre, hein, c'est-à-dire sous les bombes israéliennes, dans un Beyrouth en état de siège, vous avez fait le choix non seulement de rester à Beyrouth, mais de raconter quotidiennement ce que c'est que de rester dans une ville sous les bombes. Et ces histoires ont été éditées en France par l'association, ça s'appelait Beyrouth juillet-août 2006, et c'est comme ça que vous avez eu cette célébrité, en quelque sorte, dans le monde de la bande dessinée et même au-delà de la bande dessinée. Est-ce que c'était une envie d'être témoin, c'est-à-dire ce côté journaliste que vous avez aussi, ou c'était un défi que vous vous êtes lancé pour écrire ces histoires, pour prendre la décision de rester sur place? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, Mazen Karpadze?
Beaucoup de choses, oui, c'est un peu de tout. Bon, il y a une chose, c'est que jusqu'à ce moment-là, j'avais déjà fait une dizaine de bandes dessinées auto-éditées ou éditées au Liban, et j'avais mis une sorte de point d'honneur à ne jamais parler de la guerre, parce que c'est un sujet qui m'énerve, dans le sens où nous autres Libanais, on est obligés de parler de la guerre pour être reconnus à l'étranger, etc. Et on est un peu des fruits exotiques, quoi. Et c'est un peu pareil pour un type qui vient du Rwanda, devrait parler du génocide. Un type du Biafra devrait parler de la famine, etc. Alors qu'un Allemand, on lui demanderait pas, ou un Français, ou un Italien, ou un Occidental, dans ce sens, on lui demanderait pas, il n'y a pas une sorte de tyrannie du sujet, quoi. Il doit pas correspondre à une image, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est dans ce sens que j'ai jamais voulu... je trouvais le sujet de la guerre un peu trop facile, en gros. Jusqu'à ce que la guerre s'invite dans mon travail. Alors là, c'était plus possible. Donc c'était plus parler de la guerre de quand j'étais gamin, mais c'était un truc qui se passait... Et très naturellement, dès que ça a commencé, j'ai toujours des carnets avec moi et je dessine toujours sur des carnets. Dès le premier jour, hein, dès qu'ils ont bombardé les ponts et le port de Beyrouth, j'ai commencé à dessiner ça, quoi. Je me disais, on réentend des sons qu'on avait quasiment oubliés ou qu'on avait fait semblant d'oublier. Et c'est une sorte de Madeleine de Proust abominable qui explose dans les mains et dans les oreilles, etc. Et bon, très vite, j'ai ouvert le blog et j'ai commencé à les poster. Je sais pas. Pourquoi exactement? Pour témoigner, bien sûr, pour rester sain d'esprit. Dans un sens, je me considère chanceux d'être artiste et d'avoir pu continuer à faire mon travail, voire à le faire plus frénétiquement, parce que c'était une période vraiment très intense, quoi. Alors que 90%, voire plus, de la population était au chômage technique pendant 33 jours, et donc ils étaient impuissants. Donc on est juste devant la télé, on peut rien faire, quoi. Et moi, j'étais pas impuissant, j'étais plutôt au contraire. C'est aussi très difficile à dire, mais c'est une période créative intense, probablement la plus intense de ma vie. Jamais j'ai produit 220 dessins en 33 jours. Et en même temps, pour moi, c'était très dur d'accepter que je me demandais si cette page était bien ou non, alors qu'il y avait des gens qui mouraient, quoi. C'est vraiment une position assez difficile à tenir, quoi.
Alors, il y a une autre position assez difficile à tenir, Mazen Karbaj. On l'apprend à la fin de l'album Politique. C'est la question que vous vous posez. Ça renvoie à cet album de l'été 2006, puisque on se souvient, en tout cas les gens qui ont lu soit le livre édité par l'association, soit qui ont suivi votre blog se souviennent très bien. Il y avait aussi chez vous ce courage de rester alors que vous aviez les moyens de partir. Sauf que dans Politique, on apprend que vous avez fini par quitter Beyrouth pour aller à Berlin où vous vivez depuis quelques années avec votre famille, Mazen Karbaj. Et à la fin de Politique, vous vous posez la question, est-ce que je peux continuer à rire de la situation politique chaotique du Liban? Est-ce que je peux toujours porter mon regard sur cette poudrière qui est le Proche-Orient en étant loin des miens, en étant loin de cette région?
Écoutez, je vais sûrement pouvoir parler, mais plus comme dans Politique. Donc le fait de tirer à boulet rouge sur le pays, je sens que j'ai perdu une légitimité. C'est-à-dire, avant, on pataugeait dans la même mer tous, et je pouvais tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge autour de moi et être très critique. Mais il faut savoir que quand je vivais au Liban, il y a beaucoup d'expatriés qui reviennent en été et à Noël en général, aux vacances. Ils nous font chier tout le temps, oui. Ils reviennent, ouais, mais au Canada, c'est pas pareil, tu sais, oui, mais en France, c'est plus propre, les rues sont propres. Ils sont toujours très critiques sur les différences entre le monde civilisé et le Liban. Et ça nous fait chier, ça nous a toujours fait chier. Et là, je me sens comme un de ces expatriés. Donc, je suis en Allemagne et je tire à boulet rouge sur un pays où je ne suis plus moi-même touché par la corruption quotidienne, par le racisme, par tout ça. Donc, ça me donne une position de donneur de leçons qui m'énerve, qui est inacceptable pour moi. Je peux pas donner des leçons alors que je suis pas touché par les problèmes. Donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, il faut que j'arrête, je peux pas continuer. Je vais sûrement parler du Liban parce que de toute manière tout mon travail est très autobiographique et tout mon travail passe par mon expérience. Et que je le veuille ou non, je reste un bon vieux Libanais qui vit à Berlin.
Merci Mazen Karbaj.
Merci à vous.
Politique de Mazen Karbaj est édité en France chez Actes Sud. Merci Mazen Karbaj. Dans un instant, les informations, les petits matins continuent sur France Culture. Nous, on se retrouve lundi pour la dernière semaine de la saison. Le réveil culturel est à retrouver sur franceculture.fr pour un abonnement au podcast ou pour une réécoute en ligne. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Benjamin Vignal. Bonne matinée et à lundi.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Princesse des villes. À la manière d'une dérive labyrinthique, l'exposition rassemble une centaine de créateurs de mode, tatoueurs, musiciens et autres baroudeurs. Née de rencontres effectuées pendant un an de voyage à travers Dakar, Lagos, Manille, Mexico et Téhéran, elle révèle les princesses et les princes qui réinventent l'imaginaire de l'humanité urbaine. Princesse des villes, jusqu'au 8 septembre au Palais de Tokyo à Paris. Un partenariat France Culture.
Guillaume Erner, en ce premier jour de l'été, je vous offre un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs signé Gustave Courbet. Chez Courbet, les femmes sont de belles plantes et les fleurs si charnelles.
Et oui, demain on parle de Courbet, Anne. Alors je vous donne rendez-vous dès 7h dans les matins de France Culture.
Les matins de France Culture, dès 7h ce vendredi et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump chauffe le chaud et le froid face à l'Iran. Le président américain évoque une très grosse erreur de Téhéran qui a abattu hier un drone américain. Il aurait approuvé des frappes contre les installations iraniennes avant de se raviser. Vous entendrez Donald Trump dans un instant. Parole donnée également au président français Emmanuel Macron. Hier à Bruxelles, les dirigeants européens n'ont pas réussi à trouver un chef pour la commission. C'est Jeremy Hunt qui affrontera Boris Johnson pour prendre la tête du gouvernement britannique. Le parti conservateur en a décidé ainsi hier. Nous irons à Londres dans un instant. Et puis retour sur le procès France Télécom qui se tient à Paris depuis le début du mois de mai. Hier, l'un des trois prévenus était à la barre. L'Iran a choisi une lettre envoyée au Conseil de sécurité de l'ONU pour répondre aux États-Unis. Téhéran dénonce ainsi une action américaine provocatrice, très dangereuse contre son intégrité territoriale. Une référence au drone américain qui a été détruit hier matin par l'Iran parce qu'il était, selon les autorités iraniennes, dans leur espace aérien près du détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a répondu dans la foulée. Selon le New York Times, il a même approuvé des frappes contre des positions militaires iraniennes avant de se laisser convaincre de faire machine arrière. Voici Donald Trump hier soir.
Je pense que l'Iran a fait une erreur. J'imagine que c'est un général iranien ou quelqu'un qui a commis cette erreur de tirer sur notre drone. Heureusement, ce drone n'était pas armé. Il n'y avait personne dedans et il se trouvait très clairement au-dessus des eaux internationales. Mais il n'y avait pas d'homme ou de femme dans ce drone. Laissez-moi vous dire, ça aurait fait une grosse différence si ça avait été le cas. Une grosse différence. Mais j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais je me trompe rarement, que c'est une erreur faite par quelqu'un qui n'aurait pas dû faire cela. Vous verrez bien ce qui va se passer. Vous verrez bien.
Ce matin, Washington annonce interdire les vols commerciaux américains dans l'espace aérien de l'Iran. Hier, Emmanuel Macron a appelé les deux parties au calme. Le président français qui s'exprimait depuis le Conseil européen à Bruxelles. Lors de ce sommet, les 28 pays membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nom pour présider la Commission européenne. Faute de consensus, les trois candidats sont donc écartés, que ce soit la Danoise, Margrethe Vestager, le Néerlandais, Frans Timmermans ou encore l'Allemand, Manfred Weber, qui était soutenu par Angela Merkel, mais rejeté par la France notamment. Emmanuel Macron s'en est expliqué.
Les noms qui ont été débattus aujourd'hui n'ont pas été en fonction de leur nationalité. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire moi-même. Je n'ai rien contre une candidature allemande. Je l'ai dit et ça n'était pas une boutade. La chancelière aurait-elle même été candidate, je l'aurais soutenue. Parce que je pense qu'elle a les qualités, les compétences pour être une très bonne présidente de la Commission. Ça n'est pas son souhait, je le respecte très profondément. Mais c'est aujourd'hui ce que les systèmes des partis politiques ont fait émerger, qui a été questionné. Et donc, il ne faut pas y voir du tout un débat franco-allemand. Il faut y voir un vrai débat démocratique, politique et de projet au sein de l'Union européenne.
Des propos recueillis hier soir par Angélique Bouin. Notons par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'unanimité sur l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 dans l'Union européenne. La Pologne, suivie par la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie, ont bloqué l'accord. La course pour Downing Street touche à sa fin. Les députés ont finalement désigné les deux candidats qui seront présentés au vote des membres du Parti conservateur. C'est Jeremy Hunt qui affronte Boris Johnson, Marina Daras.
Avec 77 voix, il bat de justesse le ministre de l'Environnement, Michael Gove. Jeremy Hunt et Boris Johnson se retrouvent donc au coude à coude pour prendre le poste de Premier ministre. Depuis le début des votes éliminatoires, la semaine dernière, il était certain que Boris Johnson finirait en finale. Il recueille d'ailleurs plus de la moitié des votes des 313 députés conservateurs et les bookmakers lui donnent désormais plus de 92% de chances de devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. La grande question était de savoir qui allait bien pouvoir lui faire de l'ombre. Bien que loin derrière Johnson, Jeremy Hunt était le deuxième candidat à recevoir le plus de soutien de la part des députés. Son expérience d'entrepreneur et de businessman rassure un parti qui a toujours été orienté sur le commerce. Reste à savoir si cette expérience sera assez pour les 160 000 membres du parti conservateur qui auront quelques semaines pour choisir entre lui et le très populaire Boris Johnson.
Marina Daras à Londres pour France Culture. Près de 10 000 personnes sont entrées hier dans le Parlement en Géorgie, forçant un barrage de police. Scènes de heurts qui ont fait 39 blessés côté forces de l'ordre, 30 côté manifestants. Les protestants contestaient la prise de parole d'un législateur russe dans l'Assemblée géorgienne depuis le siège du président. La Géorgie a dû abandonner il y a 11 ans maintenant deux de ses provinces dans une guerre avec la Russie. Les deux pays n'ont depuis plus de liens diplomatiques. Des rassemblements aussi à Hong Kong où des centaines de manifestants bloquent de nouveau ce matin le centre-ville et notamment l'une des artères principales devant le Parlement local. Ils exigent la démission de la chef du gouvernement pro-Pékin, Carrie Lam. C'est elle qui ne veut pas céder sur le projet de loi permettant des extraditions vers la Chine. Et c'est une nouvelle étape dans la crise diplomatique que traverse l'ancienne colonie britannique. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un hier. Un échange dans le cadre d'une visite de deux jours pour consolider les liens économiques entre Pékin et Pyongyang. Xi Jinping est le premier président chinois à se rendre en Corée du Nord depuis Hu Jintao en 2005. Quelles conséquences en sortiront? Théo Clément est docteur en recherche au King's College de Londres. Il voit plusieurs scénarios possibles.
Si Xi Jinping est en Corée du Nord essentiellement pour mettre la pression sur Washington et pour rappeler à Donald Trump que la guerre commerciale est une mauvaise politique, il est tout à fait possible que Xi Jinping soit un peu provocateur et parle de développement de la coopération économique avec la Corée du Nord, par exemple, pour faire comme un pied de nez vis-à-vis des États-Unis. S'il s'agit plutôt d'une rencontre qui cherche à resserrer les liens entre la Corée du Nord et la Chine, on pourrait imaginer plutôt des conversations politiques sur comment développer des liens diplomatiques, comment réintégrer la Corée du Nord dans la division internationale du travail, travailler sur des projets communs de développement des infrastructures, notamment les entreprises chinoises du nord-est de la Chine sont très intéressées par les ports nord-coréens, développement du secteur minier, les questions d'agriculture, etc.
Pas de question de droits de l'homme, mais là, tous les deux semblent d'accord sur le sujet.
Alors, sur la question des droits de l'homme, ni la Corée du Nord ni la Chine n'ont une diplomatie vis-à-vis de ça, et je pense qu'ils n'ont pas vraiment à apprendre l'un de l'autre, donc la question ne se pose pas.
Théo Clément, interrogé par Nathanaël Charbonnier. Après un début de grève de surveillance, ils corrigeront les copies du baccalauréat, mais ils ne les rendront pas au rectorat. Certains professeurs veulent faire de la rétention de copies pour protester toujours contre la loi Blanquer pour une école de la confiance. Parmi ces enseignants, Marc-Antoine, syndicaliste à Sud et professeur de philosophie, il s'explique.
La grève des surveillances, c'était intéressant, mais ça peut être absorbé par un appel massif à des précaires, des étudiants recrutés, des vacataires et des personnels administratifs pour faire la surveillance. Et ce qui nous a paru pertinent, c'était non pas le refus de correction, mais le fait de corriger, de retenir les notes pour une durée illimitée. Alors rétention de notes, concrètement, ça signifie qu'on a nos copies, on les corrige. Et en fait, au moment où on doit les renvoyer au rectorat, on conserve les notes. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autre moyen que celui-là pour faire face au mépris du ministère. On aimerait bien ne pas en venir là, c'est quand même dommage, quoi. Sérieusement, on proteste, on envoie des arguments, on discute toute l'année. On se met en grève, on envoie des signaux un petit peu plus tendus. Et en fait, quoi qu'on fasse, on sera méprisé. Et ce gouvernement, il est capable d'attaquer sur tous les fronts à la fois et d'avancer comme un bulldozer. Donc à un moment, on se dit, bon, voilà, faut qu'on trouve des solutions pour ça. Et si on pénalise le moins possible les élèves, tout en bloquant la machinerie implacable à laquelle on fait face.
Un professeur de philosophie dans l'Indre, interrogé par Jérôme Collin. Au moins 60 000 femmes en seraient victimes en France. L'excision, considérée comme une mutilation sexuelle chez nous, elle est encore une coutume ailleurs et notamment dans plusieurs pays d'Afrique. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, va présenter ce matin son plan de lutte contre l'excision. L'idée est notamment de mieux repérer les jeunes filles qui risquent d'en subir et de faire de la prévention à l'école. Les suites du procès France Télécom, il dure depuis plus d'un mois et demi maintenant. 8 personnes sont jugées pour harcèlement moral et complicité après le suicide de 19 salariés de France Télécom dans les années 2000. Parmi les prévenus, il y a l'ancien numéro 2 du groupe, Louis-Pierre Vénès. Il était hier entendu pour évoquer les réorganisations dans l'entreprise. Compte rendu d'audience avec Antoine Marette.
Louis-Pierre Vénès a été cost-killer chez France Télécom, chargé de réduire les coûts. Il est le concepteur du fameux plan Next qui est au cœur de ce procès. Ce centralien de 70 ans avait à France Télécom la réputation d'être craint, À la barre, il explique son dilemme. Sans fioritures, on a des métiers où on a besoin de moins en moins de personnes et on a l'obligation de leur fournir un travail. On a entendu que les plans Next et Act étaient anxiogènes par nature pour engendrer 22 000 départs, lui rappelle son avocate. Louis-Pierre Venès marque un silence. « Bien sûr que non, je ne comprends même pas qu'on me pose la question », s'indigne-t-il. « Moi, j'avais envie d'emmener tout le monde, mais on n'avait pas de travail pour tout le monde ». L'homme se voit comme un skipper. Il explique qu'il a fondu en larmes lors du tournage d'un documentaire de Serge Moati consacré à France Télécom. « J'ai pas voulu que ça passe, car sur un bateau, l'équipage ne doit pas voir que le skipper tremble. Comment pensez-vous que la destruction de tous ces postes peut se faire? C'est quand même énorme, s'étonne l'avocate de Sud, maître Sylvie Topalov. Le ton monte. Que voulez-vous me faire dire? Répond le prévenu. C'est jamais facile quand les gens partent.
C'était Antoine Marette pour France Culture. Les pluies et les orages sont situés ce vendredi sur le sud-ouest jusqu'au massif central. Ailleurs, les éclaircies seront belles. Il fait ce matin 17 degrés à Lille et Rennes, 19 à Paris, 22 à Lyon, 27 à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Et ce soir, c'est la fête de la musique, Jacques. Cela ne vous a pas échappé, évidemment. Elle va résonner dans nos quartiers, nos communes. L'occasion pour vous de s'intéresser à la signification sociale de la musique.
Oui, et elle est évidemment très diverse. Et ce sont surtout les ethnomusicologues qui l'ont étudiée. L'un d'entre eux, Gilbert Rouget, l'avait approché sous l'angle de la transe. On sait souvent représenter la musique comme douée du mystérieux pouvoir de déclencher la possession, écrivait-il. Il n'en est rien, la musique ne fait que socialiser la transe et lui permettre de s'épanouir. Pour lui, la musique est au service du social. Mais Christopher Small la voit au cœur du dispositif qu'elle contribue à ordonner. Auteur d'un ouvrage devenu un classique des Music Studies, que les éditions Philharmonie de Paris viennent de publier, il s'emploie à décrypter les interactions sociales produites par l'événement typiquement occidental du concert symphonique. Le titre du livre, musiquer, comme un verbe, musiquer, évoque une expérience globale, participer de quelque manière que ce soit à une performance musicale, en jouant, en écoutant, en répétant ou en pratiquant, en fournissant un matériau pour une performance, ce qu'on appelle composer, ou en dansant. Le néologisme avait également été employé justement par Gilbert Rouget, qui faisait remarquer que Diderot ou Rousseau l'utilisaient couramment, mais son application au monde feutré des salles de concert classiques est une entreprise étonnante et éclairante à la fois, car il s'agit d'une expérience si familière qu'elle nous cache sa nature éminemment sociale. Avant d'analyser, pour commencer, l'élément spatial et architectural du dispositif, l'auteur évoque un trait culturel qui contribue à faire écran dans nos représentations. C'est l'œuvre au centre de l'histoire de la musique et qui relègue au second rang le rôle essentiel des interprètes. Ce qui est valorisé, ce n'est pas l'action de l'art ou l'acte créateur et encore moins celui de percevoir et de réagir, mais l'objet créé en tant que tel. Un phénomène que Walter Benjamin résumait ainsi dans l'origine du drame baroque allemand. La réalité suprême de l'art, c'est l'œuvre isolée, fermée. Brahms déclina un jour une invitation à Don Giovanni en prétextant qu'il préférait rester chez lui et en lire la partition. On ne sait pas ce qu'en aurait pensé Mozart, ce génie de l'interprétation. Le résultat, globalement, c'est que la performance ne joue aucun rôle dans le processus créatif, que la musique est une affaire individuelle, que composer, interpréter et écouter se déroule dans un vide social, que la qualité de l'interprétation est plafonnée par celle de l'œuvre et que rien ne saurait contribuer à la production de sens, chasse gardée du compositeur. Or, selon Christopher Small, l'œuvre en elle-même n'existe pas, sinon pour offrir aux musiciens quelque chose à jouer. Maintenant, entrons dans la salle du concert après avoir été impressionnés par la taille et l'allure du bâtiment. Sa splendeur clame haut et fort que les spectacles qui s'y déroulent sont eux-mêmes une activité sociale importante. Avant d'y accéder, petite étape transitoire dans le foyer où des bars offrent collations et boissons. Avant la messe convenue, on peut y afficher décontraction et sociabilité. Rien à voir avec ce qui se passe dans la salle. Construite conformément au principe selon lequel une performance musicale est un système de communication unidirectionnel qui va du compositeur à l'auditeur via les musiciens. Là, toute sociabilité est restée au vestiaire, même si nous sommes venus seuls et que nous ne connaissons personne. Nous pouvons malgré tout nous considérer comme faisant partie de l'événement. Dès lors, le silence est de mise, le confinement en fauteuil, les retardataires exclus avant l'entracte. On se rassemble pour partager, écrit Christopher Small, des moments de culture intime et personnelle avec des inconnus. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. La rotonde du Ranelagh à Londres au mi-temps du XVIIIe siècle, la plus grande salle de musique sur environ 200 jardins d'agrément, offrait la possibilité de ne pas séparer interaction sociale et plaisir musical. On s'y croisait, on s'y rencontrait dans un cadre où la musique offrait une toile de fond à écouter dans les intermittences de la conversation. Les grands festivals de rock des années 1960 et 70 illustrent d'une autre manière une forme de sociabilité qui n'était pas une activité séparée des performances. Bien plus, ils étaient vécus comme des moments de libération des contraintes quotidiennes. Aujourd'hui, en Afrique, du Burkina Faso jusqu'en Ouganda, en passant par le Cameroun ou les Comores, les chanteurs s'engagent en politique. Antoine Pecker a mené l'enquête pour la revue du Crieur. Il cite la chercheuse Chloé Buir qui rappelle que dans les années 1930-40, l'engagement politique se retrouvait surtout chez les poètes, les chantres de la négritude. C'était eux qui portaient les luttes de la décolonisation. Aujourd'hui, c'est dans le champ musical que l'on retrouve ce militantisme. Là, l'auditeur joue un rôle actif et à Ouagadougou, au rassemblement autour du rappeur Smokey, le terme concert semble inadapté à décrire l'événement. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, l'avion de combat européen.
Et oui, c'est le SCAF, le système de combat aérien du futur qui a été annoncé lundi au Bourget. Une coopération annoncée par les trois ministres de la Défense allemande, espagnole et française. Et comme objet central, effectivement, un avion pour remplacer les Rafales français et Eurofighter britanniques d'ici 2040 et donc donner des ailes à cette défense européenne autonome dont parlent beaucoup les dirigeants. Eh bien, on voit ça avec vous, Jean-Pierre Molny, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, responsable des questions liées à l'industrie de l'armement et aux ventes d'armes. Alors, cet avion qui a été annoncé, sa maquette dévoilée au Bourget où vous étiez, Jean-Pierre Molny, il devrait être opérationnel d'ici 2040 avec un démonstrateur d'ici 2026. Qu'est-ce que vous retenez d'abord, c'est-à-dire la première coopération européenne dans le domaine ou le fait que c'est un programme qui arrive peut-être un peu en retard sur le F-35 américain ?
Alors, on ne peut pas dire qu'il arrive en retard par rapport au F-35 américain, parce que la problématique du SCAF, c'est surtout le remplacement des Eurofighters et des Rafales, et c'est maintenant qu'il faut lancer effectivement le processus de renouvellement de ces avions. Donc la grande nouveauté, c'est qu'il y a 35 ans, on avait fait tout seul avec le Rafale, et qu'aujourd'hui, on veut faire notamment avec les Allemands, et puis aussi avec les Espagnols qui ont rejoint ce projet.
Et alors, c'est ce qu'a souligné Florence Parly, à trois pays, donc puisque c'était un projet qui a été initié en 2017 entre la France et l'Allemagne, désormais avec l'Espagne qui vient de signer, Florence Parly dit une dimension résolument européenne. Trois pays, ça vous paraît suffisant, disons ?
En fait, c'est suffisant pour le moment, c'est-à-dire que c'est une coopération qui va être très compliquée parce que ce n'est pas uniquement un avion de combat, c'est véritablement une architecture de systèmes aériens qui seront connectés les uns avec les autres. Donc tout ça est très compliqué à mettre en place et donc il est préférable de peut-être de commencer avec trois pays et peut-être qu'ultérieurement d'autres pays se joindront à ce projet.
Alors qu'on en vienne justement à la nouveauté qui est annoncée avec ce SCAF, système de combat aérien du futur, donc l'avion au centre, mais au centre d'un ensemble d'autres appareils comme des drones, des missiles de croisière, des drones en essaim. Est-ce que c'est vraiment très nouveau dans le système de la défense aérienne, ce système, et comment ça va fonctionner ?
Bah, effectivement, c'est quand même complètement nouveau parce que jusqu'à maintenant, on peut dire que les avions communiquaient entre eux. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité au niveau aérien avec ce qu'on appelle la liaison 16. Mais là, maintenant, c'est véritablement des données qui pourront être transférées entre des avions, des satellites, des avions de reconnaissance, des drones de reconnaissance, des avions sans pilote qui seront commandés. Donc effectivement, c'est toute une connexion d'un système aérien de combat qui se mettra en place d'ici les années 2040, parce que ça va pas non plus se faire du jour au lendemain.
Ouais, c'est ce que le PDG d'Airbus Defence and Space avait appelé un système de système. Est-ce que là-dedans, encore un point technique mais important, ça va pas redéfinir le rôle du pilote, ou est-ce que, disons, avec tous ces systèmes et toutes ces connexions, il y aura pas plusieurs opérateurs pour un seul appareil?
Mais effectivement, c'est une question qui se pose sur l'architecture du système. C'est-à-dire, quel sera exactement le rôle du pilote? Est-ce qu'il commandera d'autres systèmes? Est-ce que le commandement sera déporté dans d'autres systèmes? Ça peut très bien être des avions de transport. Donc, toutes ces questions sont sur la table aujourd'hui, sachant qu'un pilote, dans un avion, il ne peut pas tout faire. Et que ces dernières années, on a bien vu d'ailleurs qu'il y avait un risque avec l'inflation des rôles dévolus aux pilotes dans un avion de combat.
Les dernières choses concernant l'avion lui-même, donc je crois qu'il y a 150 millions qui ont été prévus sur 2 ans pour la mise en place et la conception de cet avion. La maquette fait 18 mètres de long, 14 mètres d'envergure. En fait, c'est les dimensions presque exactes du F-22 américain cette fois-ci. Pourquoi cette similarité?
Oh, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est une maquette. Hein. Tout ça va naturellement être affiné dans les mois et dans les années qui viennent. Là, ce qu'on attend d'ici la fin de l'année, c'est la signature d'un contrat pour fabriquer un démonstrateur, hein, vous l'avez dit, et qui devrait voler en 2025 ou 2026, et démonstrateur qui lui-même préfigurera l'avion de combat en lui-même, dont le développement et la production commenceront dans les années 2030.
Et alors, sur le calendrier, ça vous semble faisable? Sur la faisabilité industrielle elle-même, il y a eu un plaidoyer particulièrement appuyé à plusieurs reprises de la France. Est-ce que ça vous semble possible jusqu'ici de développer cet avion? Et est-ce que c'est pas précisément un des enjeux que de pouvoir arriver à le développer à très peu de pays, finalement?
Je pense qu'on a les capacités avec la France, l'Allemagne et l'Espagne de développer cet avion. Peut-être qu'il faudra d'autres pays dans les années qui viennent, ne serait-ce que parce que financièrement, on n'aura certainement pas les moyens de développer 2 avions de combat comme on l'a fait dans les années 80.
Parce que vous avez chiffré vous-même là dans un article le coût, je crois que c'est 80-100 milliards, c'est ça?
Alors, c'est une estimation, mais effectivement, on peut penser que l'avion avec l'architecture système, ça peut être cet ordre d'idée. Donc, il est évident qu'un seul pays ne peut pas développer un tel avion. Il faut être à plusieurs pour le faire. On a aussi la question, tout simplement, vous l'avez dit, la construction d'une Europe de la défense. Et il serait quand même mieux que les Européens aient un seul avion de combat. Maintenant, encore une fois, c'est un système et il y aura d'autres systèmes qui se coupleront à cet avion de combat.
Bon, et justement, pour ce qui concerne les avions de combat, le problème, c'est que lors des derniers développements des avions, on va dire de 4e génération, l'Europe s'est retrouvée avec une concurrence importante du Rafale, du Gripen suédois et de l'Eurofighter, on va dire britannique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays européens, je crois 5 pour l'instant, qui ont prévu d'acheter le F-35 américain. Pour l'instant, 3 seulement qui vont développer cet avion du futur européen. Quelle chance il a finalement d'être pris en Europe, cet avion?
Le F-35, c'est pas exactement le même avion que ce futur avion de combat. D'abord, le F-35 est plutôt un avion d'attaque au sol et il entre en service maintenant. Donc il faut bien voir, ce nouvel avion entrera en service en 2040. Donc c'est déjà une nouvelle génération après le F-35. Un des problèmes que pose le F-35 aujourd'hui, c'est d'une part qu'il est extrêmement cher et qu'il ponctionne les budgets de défense d'un certain nombre de pays européens, enfin de ceux qui l'ont acheté. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, le S-35 est un avion fermé, parce que lui aussi, c'est un système, mais c'est un système fermé. Et pour l'instant, il oblige un petit peu, je pense aussi un peu le calcul des Américains, il oblige à acheter du F-35 pour être connecté avec le S-35. Bon, on sait que le combat dans les années futures, si malheureusement il y a une crise très grave, ce sera un combat collaboratif où tous les avions devront communiquer les uns avec les autres.
Sachant qu'il y a aussi un projet britannique de nouvel avion, alors attaque au sol ou chasseur, je ne sais pas, mais c'est le Tempest. Est-ce que là, va pas y avoir un hiatus ou une concurrence frontale aussi?
Bah effectivement, le Tempest a été annoncé l'année dernière. Il y a peut-être certains pays qui pourraient rejoindre les Britanniques.
Il y a l'Italien, Leonardo.
On parle des Italiens et des Suédois. Bon, pour le moment, on est dans des phases de développement et même de recherche sur ces avions. On n'est pas encore en phase d'industrialisation. Donc, s'il y a deux projets concurrents, c'est pas dramatique pour le moment. Mais en revanche, il est certain que ce serait quand même assez dommageable si deux projets perduraient dans le temps en étant concurrents.
Bon, et dernière chose, je le disais, relativement à une Europe de la défense, c'est un projet parmi d'autres, comme un char européen par exemple ou un avion maritime développé ou annoncé entre la France et l'Allemagne. Est-ce que le plus grand risque, c'est pas l'aléa politique précisément du côté allemand, puisque Angela Merkel risque de sauter, que la coalition n'est pas forcément en meilleure situation en ce moment, et que c'est Angela Merkel qui a beaucoup plaidé pour cet avion aussi?
Bah, c'est vrai qu'on a toujours là les aléas politiques avec ces coopérations. Maintenant, il y a quand même une raison très forte qui doit dépasser ces aléas politiques. C'est que tous les États européens eux-mêmes n'ont plus les moyens de se défendre sur une base nationale et qui doivent absolument coopérer. Sinon, chacun s'affaiblira et la sécurité des citoyens ne sera pas assurée. Donc, il y a une nécessité extrêmement forte, un impératif à coopérer, et je pense que ça dépasse le fait que Angela Merkel soit chancelière ou pas chancelière, et ça dépasse le pouvoir actuel d'Angela Merkel.
Bon, mais donc la nécessité stratégique et puis la coopération industrielle déjà lancée. On verra les financements cet été et puis à l'automne éventuellement. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Jean-Pierre Molny. Je le rappelle, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le DVD du film Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi. Dans une grande villa de la Côte d'Azur, Anna retrouve sa famille pour les vacances.
Il arrive quand, Luca?
Il arrive ce week-end.
Au milieu de l'effervescence, Anna doit gérer sa récente rupture. Peu à peu, des rapports de force et de désir vont ébranler l'harmonie fragile qui règne dans la villa.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison.
DVD du film Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi, actuellement disponible, un partenariat France Culture. On tournera.
6h57 sur France Culture.
Mais oui.
Et oui, l'heure des matins avec
Bonjour, Xavier Martinet.
Bonjour, et puis...
Bonjour à toutes et à tous.
Et puis ce matin, vous avez découvert pire que les pizzas à 20 balles.
Oui, pire que les pizzas à 20 balles, effectivement, les toasts à l'avocat à 12 euros. Alors vous savez qu'à France Culture, nous avons fait le serment de tout vous dire, y compris le pire de ce qui arrive. Et ben voilà, dans les cartes des restaurants de France, arrive le fameux toast à l'avocat, lequel est proposé à 12 euros. Alors qu'en termes de matières premières, bien entendu, Xavier, vous qui faites votre marché, je vous la fais large, il y en a à peu près pour 1 euro. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous dites que cette information est rigoureusement dépourvue de tout intérêt et que si ce toast est trop cher, ce qu'il est d'ailleurs, il suffit de ne pas le commander, voire d'aller manger ailleurs. Les choses ne sont pas si simples, car dans le monde anglo-saxon, le toast à l'avocat est au cœur d'une immense polémique. Celle-ci a débuté il y a 2 ans, où un mania de l'immobilier expliquait que la jeune génération, vous savez, ceux qu'on appelle les millennials, ne parvenait pas à devenir propriétaire parce qu'elle dépensait son argent en choses futiles, et notamment en toast à l'avocat, lesquels coûtaient jusqu'à 15 dollars, alors que confectionner la maison, il permettait d'en économiser 14, qui pouvaient aller donc au budget immobilier. Polémique. et le toast à l'avocat est devenu aux États-Unis le symbole d'un mode de vie urbain, snob et dispendieux, une sorte de mythe de Sisyphe revu par Bret Easton Ellis où il s'agit de perdre sa vie pour payer des toasts à l'avocat surpayés. Le fait que cette recette snobinarde arrive dans les restaurants français montre que nous ne sommes pas à l'abri de ce type de toccade. Oui, mais voilà, indépendamment des toasts à l'avocat à 15 dollars, il y a aussi les studios à 200, 300 000, 400 000 dollars et pratiquement autant d'euros. Autrement dit, à l'échelle des métropoles mondiales, Londres, Sydney, Paris, Lyon, Toulouse, etc., on assiste à une inflation des actifs immobiliers. Les appartements situés dans les lieux où se situe l'activité économique coûtent de plus en plus cher et deviennent hors de portée de la majorité des habitants. C'est ainsi qu'à Los Angeles, un trentenaire aujourd'hui ne peut pas espérer devenir propriétaire avant l'âge de 73 ans. Par conséquent, la question métaphysique de l'œuf et de la poule en matière de niveau de vie est désormais celle du toast à l'avocat et de la pierre. Est-ce le prix du toast à l'avocat qui empêche les jeunes de devenir propriétaires ou bien le prix de la pierre explique-t-il l'inflation des autres produits à l'instar du toast à l'avocat? Une question qui donne évidemment envie d'aller manger un sandwich au camembert dans la campagne.